le magazine des Nations Unies.
À toutes et à tous, bienvenue à ce numéro du magazine des Nations Unies dont voici les titres. Crise humanitaire à Goma et à Bukavu, Ocha hausse le ton. Son coordonnateur dénonce de graves violations de droits humains et de droit international enregistrées dans ces deux villes actuellement occupées par la rébellion du M23, appuyée par le Rwanda. Bruno Le Marquis appelle en même temps toutes les parties à protéger les civils. Et puis ce SOS pour apporter aide et soutien aux défenseurs de droits de l'homme présents dans l'est de la RDC ainsi qu'à leurs familles. Mary Taylor, rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs de droits de l'homme à l'ONU, s'inquiète pour leur sécurité. Elle plaide au besoin pour leur réinstallation temporaire ailleurs. Elle le dit dans un communiqué publié mercredi à Genève. Et puis Marie Moussifou Bouguin, spécialiste nationale en charge du genre à la FAO, est l'invitée de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Les défenseurs de droits de l'homme courent des risques extrêmes de représailles pour leur travail en faveur des droits de l'homme dans l'est de la RDC. C'est l'inquiétude exprimée par une experte des Nations Unies. Dans un communiqué rendu public mercredi dernier à Genève, Mary Lawlor, rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs de droits de l'homme, appelle à venir immédiatement en aide à ces personnes et à soutenir ces défenseurs ainsi que leurs familles pour une réinstallation temporaire ailleurs. À Kisangani, un nouveau plan provincial des stratégies multisectorielles du secteur nutritionnel est en élaboration dans cette ville avec l'appui de l'UNICEF, les services techniques de l'État, les partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, le CIFOR et Enabel, ainsi que la société civile, ont participé à ces travaux de 3 jours clôturés vendredi. Qu'est-ce qui explique l'élaboration de ce document et quelle en est la finalité? Réponse avec vous, Jacques Omkonkole.
Plus ou moins 50 personnes participaient à cet atelier d'alignement du plan provincial stratégique du secteur nutritionnel dans la Tchopo. Selon le docteur Norbert Mosunga, coordonnateur du programme de coopération provinciale, ces assises de 3 jours vont déboucher à l'élaboration d'un nouveau plan de lutte contre la malnutrition. L'ancien, produit lors des états généraux de l'agriculture et du programme de nutrition, organisé à Kisangani en 2019, est devenu suranné. Il faut donc en élaborer un nouveau, adapté au modèle produit par Kinshasa. Le docteur Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan, en explique la finalité.
La finalité, c'est avoir un outil à mettre à la disposition de l'autorité politique au niveau de la province, qui pourra servir de guide, ou si on peut dire de boussole, pour la lutte contre la malnutrition au niveau de la province, en vue d'arriver à réduire tant soit peu cette situation dramatique qui prévaut dans notre province.
Rappelons que selon les dernières enquêtes de 2023-2024, révélées par le ministère provincial du plan, 54% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique dans la Tchopo, tandis que la malnutrition aiguë couvre une proportion de 25%. Actuellement, la situation s'est aggravée, déclare le chef de division provinciale du plan, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au moins 500 poches de sang et plusieurs intrants vitaux pour couvrir les besoins urgents de la population ont été réceptionnés mardi 4 mars par les responsables sanitaires à Goma. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a facilité le transport de cette aide humanitaire collectée à Kinshasa par le ministère de la Santé. Thiemo Bald, responsable de l'OMS, qui a réceptionné cette cargaison à la grande barrière entre Goma et Gisenyi, l'a à son tour remise à merveille Roubakaré, la coordinatrice provinciale du centre des transfusions sanguines en Nord Kivu. L'arrivée de ces poches de sang est un soulagement et va servir aux hôpitaux de Goma et Bukavu, a déclaré la coordinatrice du CPTS en Nord Kivu. Suivant tour à tour les impressions de ces deux responsables dans ces extraits choisis par Sifa Maguru.
L'utilité du sang, c'est pour subvenir aux besoins de malades nécessiteux qui ont besoin du sang au niveau des structures hospitalières. Ça sera utile au niveau de Nord Kivu ainsi que du visite qui vous.
Les efforts qui ont été faits depuis maintenant 3 semaines par l'Organisation mondiale de la santé pour les transporter par plusieurs endroits, vous arrivez ici aujourd'hui. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous et nous espérons qu'ils seront utilisés de façon efficace, de façon efficiente pour continuer à sauver la vie.
Au Kasaï oriental, l'eau potable est désormais disponible pour plus de 200 ménages, dont 100 de retournés de l'Angola, ainsi que des déplacés internes installés au site de convergence de Bena-Kasampuila. Nous sommes dans les territoires de Tshilenge. Le gouverneur de province a inauguré mardi dernier un forage de puits d'eau creusé par l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement avec le financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Explication Esther Dalafina.
C'est un ouf de soulagement pour les femmes ménagères qui se rendent à plus de 5 kilomètres chaque jour pour puiser l'eau brute dans un ruisseau. Marthe Ilunga, retournée de l'Angola, affirme que ce forage est une solution au problème de violence basée sur le genre dans cette localité.
Aujourd'hui, on sommes très heureuses. On n'a plus peur des viols, des violences. On est très contentes de cette eau qu'on nous a donnée.
Ingénieur Aden Moussavoulé de ADES explique ici le fonctionnement de ce forage.
Ce forage a un puits profond de 120 mètres. Il nous dessert de l'eau à un débit de 3 mètres cubes l'heure qui alimente un stockage de 10 mètres cubes. Et c'est là qu'il dessert sur 4 robinets de bornes fontaines.
Ce forage a été construit avec le financement de UNHCR. Son chef de bureau dans le Grand Kasaï, Dr Jean-Jacques Ngondo, affirme que ce geste va au-delà du mandat de HCR.
Nous avons aussi, après évaluation des besoins, trouvé que la question de l'eau, qui normalement ne devrait pas être dans le cadre du rapatriement parce que la question de l'accès à l'eau est une question vraiment vitale.
Signalons que les retournés de l'Angola et les déplacés internes de Kamwenasapu installés à Kasampuila ont aussi bénéficié des abris construits sous la supervision des ADSS partenaires du HCR. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Un autre cri face à la guerre, c'est celui du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Son coordonnateur en RDC dénonce de graves violations des droits humains et de droits internationaux enregistrées récemment au nord et au sud Kivu, précisément dans les villes de Goma et Bukavu, occupées par la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. Bruno Lemarqui appelle toutes les parties à protéger les civils et à respecter leurs obligations en vertu du droit international. Ronéline Tibonera.
Dans un communiqué du 3 mars 2025, Bruno Lemarqui exprime sa profonde inquiétude face à la multiplicité des actes de violence ciblés contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives et le personnel humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces actes constituent non seulement des atteintes graves aux droits humains fondamentaux, mais aussi des violations du droit international humanitaire. Ces communiqués des OCHA indiquent qu'entre le 1er et le 3 mars, plusieurs centres hospitaliers de Goma ont été pris pour cible et par des acteurs armés, marquant une nouvelle escalade de violence contre les structures médicales et les personnels de santé. Ce rapport également revient sur les explosions du 27 février 2025 lors d'une manifestation publique à Bukavu, au site Kivu, qui ont fait 13 morts et des dizaines de blessés parmi les civils. En outre, plusieurs autres rapports signalent une hausse inquiétante des cas d'enlèvement des civils, y compris aux abords d'écoles et structures de santé, dans certains territoires du nord et du sud Kivu, ajoute ses communiqués de presse. Bruno Lemarqui rappelle que toute attaque visant ces structures essentielles est une violation grave du droit international humanitaire et doit cesser, souligne-t-il.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Dominique Omonongo, rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale. Construire une démocratie inclusive et résiliente en RDC, c'est le thème au centre d'un atelier de formation qui s'est tenu mardi et mercredi dernier à Kinshasa. Une trentaine de femmes leaders de la RDC y ont participé. Elles ont échangé sur les moyens de bâtir des démocraties résilientes qui répondent aux attentes de tous. L'initiatrice de cette rencontre, Dominique Omonongo, nous en parle. Elle est interrogée par Michel Kifindangoy.
Madame Dominique Monongo, bonjour. Vous avez organisé une formation sur les leaderships féminins et inclusifs. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette formation?
Aujourd'hui, nous sommes venus pendant 2 jours. Durant 2 jours, nous avions eu notre partenaire. Ça venait d'un besoin des femmes parlementaires, les nouvelles élues. Et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait 3 mandats, 4 mandats. Je peux les citer, Madame Anastasie Moleko qui était ancienne ministre, Madame Loukiana. Elles ont été avec nous pendant ces 2 jours. Et pourquoi ce besoin était là? Parce que nous avons besoin, nous, en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Amener les femmes à se mettre à niveau, les anciennes, à se rappeler un peu des premiers pas et comment on doit procéder, soit des stratégies de plaidoyer, soit comment organiser, comment être leader en fait. Et aux nouvelles femmes parlementaires aussi, qu'elles comprennent que rien n'est jamais aisé et que rien ne tombe comme ça. Non, vous avez eu la grâce déjà d'être élue, mais il faut maintenant toujours se former, comment prendre la parole en public, comment agir, quel accoutrement avoir, quelle posture avoir. Et tous ces outils que nous avons eus pendant ces 2 jours nous ont permis, je l'espère quand même pour certaines d'entre nous, de comprendre que la population attend beaucoup de nous et que nous-mêmes, nous avions pu acquérir beaucoup de connaissances.
Vous prenez pour un leadership féminin résilient, comment vous comptez implanter ce leadership?
Avec ce leadership, je crois que c'est au quotidien. Non seulement d'abord entre nous, les femmes parlementaires, il faudrait qu'il y ait plus de solidarité. Le premier jour, j'ai parlé de la sororité même des femmes politiques. C'est important parce que si entre nous, on ne parle pas le même langage. Bien entendu, on vient de partis politiques différents. On a des idéologies différentes. Mais à un moment donné, autour de la cause de la femme, autour de ce désir de dire il faut davantage les femmes en politique, il faut davantage que les femmes restent, se stabilisent. Parce que bon, nous sommes 62 sur 500. On souhaiterait qu'il y ait non seulement les 62, qu'elles soient réélues dans 5 ans, on va dans 4 ans bientôt, et qu'il y ait davantage, qu'on soit 100 femmes éventuellement sur les autres, sur 500. Donc tout cela, je crois que ça entre dans la résilience, c'est l'entretien quotidien, les dialogues entre nous, prendre le temps d'avoir ce genre de séminaire, même une fois par mois, se concerter autour de l'essentiel, au lieu de toujours être là en train de se tirailler. Parce que les conflits ne manquent pas. C'est inhérent. Là où il y a les hommes, l'être humain, les conflits sont toujours là. Mais il faut à un moment donné trouver un terrain d'entente où on se dit, ok les gars, nous, ça sera évidemment ok les dames, on évolue, on change un peu de façon de travailler.
Effectivement, vous êtes minoritaire au Parlement, mais la voix de la femme doit être entendue. Comment comptez-vous mettre en place un plaidoyer efficace pour faire entendre la voix du leadership féminin?
Non seulement à travers le réseau des femmes parlementaires. À l'Assemblée, il y a un réseau qui est informel, mais qui est reconnu, le réseau des femmes parlementaires, dont nous sommes membres, quelques-unes d'entre nous, membres de ce réseau. Le mandat passé, j'étais rapporteur de ce réseau. Et aussi, il y a la commission égalité des chances. Donc, ce sont ces deux canaux qui nous permettent, ces deux structures qui nous permettent de temps en temps, quand on se réunit, on se dit, ok, on parle un peu de la cause de la femme, la cause des enfants, de la famille. Et le bureau nous écoute. Et surtout qu'on a eu l'avantage quand même d'avoir 3 femmes. Au niveau du bureau, donc c'est déjà bien. Donc l'autre bureau est paritaire. Le président est assez ouvert. Je crois qu'il est un peu genré. Donc, et puis le prof Njoli aussi, même le professeur Chilumba et même surtout le président Bosso. Tous ils sont un peu quand même assez genrés. Donc ils nous écoutent. Nous femmes, en tout cas, quand je parle d'un problème ou d'un atelier ou d'un séminaire, ils ne sont pas contre. Ils soutiennent les actions de la femme.
La toute dernière question. Le pays traverse un moment de crise sécuritaire énorme et c'est dans ces situations que la voix de la femme est importante. Qu'est-ce que vous conseillez aux uns et aux autres pour que la paix revienne en RDC?
Moi, je suis artisan de paix, donc il n'y a que le dialogue. Je suis pour que les gens se regardent et se parlent, qu'on crève l'abcès, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous en sommes là, que peut-on corriger? Il n'y a que ça, parce que les armes n'ont jamais résolu un problème. Jamais, jamais de l'histoire du monde. Non, il faut s'asseoir autour d'une table, c'est là que les armes se taisent. Il faut dialoguer à un moment donné, il faut parler. Parler même de ceux qui fâchent, mais parler pour trouver une solution ensemble en vue de continuer.
Madame Dominique Munongo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Près de 80 000 hommes, femmes et enfants de la RDC ont fui vers les pays voisins à la suite de la guerre d'agression. Parmi eux, environ 61 000 sont arrivés depuis janvier dernier au Burundi. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, a livré ses statistiques mardi 4 mars lors d'un briefing à New York. Comment impliquer les jeunes dans la lutte contre la désinformation? Cette question était au centre d'un échange mardi à Kinshasa entre la MONUSCO et différentes couches de la jeunesse. Le but était aussi de recueillir les remarques et les suggestions des participants considérés comme des leaders d'opinion au sein de leur communauté. C'est en vue de renforcer la collaboration avec la MONUSCO dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Le programme alimentaire mondial PAM dit avoir subi des pertes considérables lors de récents combats et pillages dans l'est de la RDC. Cette agence onusienne affirme avoir perdu la totalité de ses stocks à Bukavu, tandis qu'à Goma, elle a perdu 70% des vivres qui ont été détruits ou volés. Ces réserves étaient destinées à nourrir 690 000 personnes par mois, déclare le PAM.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité Marie Moussifou Bougain, spécialiste nationale en charge du genre à la FAO. Elle fait le point sur les facteurs socioculturels qui entravent l'égalité des sexes en RDC. Elle donne aussi quelques stratégies efficaces pour lutter contre ces stéréotypes afin de promouvoir des attitudes égalitaires. Marie Moussifou Bougain s'entretient avec Jeff Opela.
Marie Moussifou Bougain, bonjour.
Bonjour monsieur.
Le 8 mars, les peuples du monde célèbrent la journée internationale des droits des femmes et la Congolaise au centre de toutes les ambitions concernant cette journée. Comment comprenez-vous ces thèmes?
Alors, merci beaucoup pour la parole. Je pense que moi, je suis friand des mots. Et je pense que les mots ont un très, très grand pouvoir et une très, très grande puissance, il faut les dire ainsi. Il faut commencer par le mot ambition pour moi d'abord. Il faut d'abord comprendre que l'ambition renvoie à l'aspiration. Donc, ce que j'aspire à devenir, ce que j'aspire à faire, ce que j'aimerais faire. Mais moi, je pense que lorsqu'on parle de la Congolaise au centre d'ambition, ça veut dire que cette Congolaise qui est au centre d'ambition, la femme congolaise, bien sûr, et la jeune fille, elle doit aspirer à ce qu'elle veut faire, sans pour autant qu'il y ait de contraintes. Mais aspirer, c'est aspirer, bien sûr. Mmh. On ne se limite pas seulement à une aspiration, mais il faudrait être doté de la volonté d'abord de aspirer à la chose que l'homme aimerait bien faire, mais aussi la détermination qui va avec, au fait. Mais moi, je pense que les thèmes tombent à pic parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les femmes congolaises, mais aussi les jeunes filles, puissent aspirer peut-être à être dans l'armée, pourquoi pas, à être juriste, à peut-être médecin, sans pour autant qu'il y ait des stéréotypes ou des clichés au niveau social. Et je pense que cette femme-là, congolaise, elle est réellement au centre des ambitions.
Vous étant spécialiste en charge du genre à la FAO, quels sont selon vous les facteurs socioculturels qui entravent l'égalité des sexes en République démocratique du Congo?
Entraver, pour moi, c'est enrayer, freiner, gêner, rattacher dans une certaine mesure. Mais je pense que aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs socioculturels qui entravent ou qui freinent ou gênent, retiennent les femmes congolaises. Alors, lorsqu'on parle de facteurs socioculturels, ce sont des pesanteurs externes qui font en sorte que dans une certaine mesure, les femmes congolaises ou la jeune fille congolaise ne soient pas en même de pouvoir répondre à la première question, d'en aspirer à ce qu'elle veut. Alors aujourd'hui, je pense que la RDC a des avancées très très significatives parce qu'on a un très très beau cadre normatif. Donc côté loi, je pense qu'on est bien casé.
Bien.
Parce qu'on a tout un arsenal juridique très très bien, en commençant par la loi fondamentale qui est la constitution de la RDC, qui consacre voilà l'égalité de sexe, le droit des femmes. Mais là où le bât blesse, c'est au niveau de l'applicabilité de texte. Alors je crois que c'est là où je pense qu'il faudrait qu'on fasse énormément de travail là-dessus, mais aussi au-delà du fait que nous devons travailler au niveau des textes, mais il faudrait que nous puissions également travailler au niveau de l'être humain lui-même. Parce que je sais que d'aucun l'union qu'aujourd'hui, hein, c'est vrai, vous êtes bien habillé, vous êtes venu ici, mais peut-être qu'en se réveillant les matins, vous n'aviez pas envie de vous habiller. Mais la première des choses qui vous a peut-être empêché de ne pas vous habiller, c'est parce qu'il y a les yeux des gens qui vont me regarder. Alors, je pense que les croyances, les us et coutumes, je pense que cette pesanteur culturel font en sorte que dans une certaine mesure la jeune fille et la femme ou la jeune femme ne soient pas en même de pouvoir aspirer à ce qu'elle veut. Donc je pense que c'est dans une certaine mesure résumé les facteurs socioculturels qui entravent.
Étant spécialiste du genre à la FAO, comment les stéréotypes des genres influencent-ils le choix et les opportunités des femmes et des filles?
Oui, les stéréotypes influencent réellement les choix et les opportunités des femmes parce que que par stéréotype, on veut voir la manière dont la communauté, la société caractérise ou les clichés au niveau sociétal. Mmh. Par cliché au niveau sociétal, on dit par exemple qu'une femme ne peut pas être femme mariée et professionnelle. Parfois, c'est assez difficile parce qu'on se dit qu'elle n'aura peut-être pas assez de temps pour pouvoir prendre en charge les enfants, l'éducation des enfants. C'est comme si ces enfants-là ne venaient que de la femme. Mmh. Et pourtant, je crois qu'il y a un homme et une femme qui font des enfants. Et que ces enfants-là doivent avoir l'éducation conjuguée au pluriel de l'homme et de la femme. Donc moi, je pense que dans une certaine mesure, ça entrave énormément de choix. Moi, je me rappelle à un moment donné, on m'a fait comprendre à moi, et c'est là par des tutelles que je suis même allée faire le droit, hein, on m'a fait comprendre à moi que oh, les femmes juristes, en lingala, comme on peut le dire, hein, baba la kate. Mm-hmm. C'est très très compliqué d'avoir des femmes juristes mariées. Et pourtant, moi, je trouve qu'au formulaire, lorsque je vérifie un peu, il y a énormément de femmes juristes ou des femmes avocates ou magistrates qui se marient et qui ont cet équilibre. Pense, vous voyez à quelle mesure les clichés sociaux ou les stéréotypes de genre font en sorte qu'on a une difficulté de faire un choix réfléchi sans aucune contrainte, en fait. C'est-à-dire, avant que je fasse un choix, je me dis, comment est-ce que la société va me regarder? Comment est-ce que les autres vont me regarder? Est-ce que je serai capable de pouvoir le faire? Donc, nos choix à nous sont dictés dans une certaine mesure par ce que les autres pensent. Ouais. Et sans pour autant que nous-mêmes qu'on se dise, ok, je me réveille un matin, Marie, je veux être juriste. Marie, je veux être ceci. J'opère mes choix. Je veux me marier ou pas me marier. Je veux avoir des enfants ou pas avoir des enfants. Sans pour autant qu'il y ait, au fait, ces clichés au niveau social. Et, moi, je le dis toujours, hein, les femmes qui n'ont pas la capacité de choisir librement ce qu'elles veulent devenir, librement ce qu'elles veulent faire, elles ne saisissent pas les opportunités. Comment est-ce que tu ne sais pas choisir? Librement, tu peux saisir une opportunité. Je te donne un autre exemple. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, je travaille dans une très très grande boîte et je travaille très bien, je suis très très bien appréciée, je suis mariée au même moment, j'ai des enfants, mais à un moment donné, on me dit, mais toi, tu peux pas aller à l'international. Mais qui va rester prendre soin des enfants? Qui va rester faire ceci? Qui va rester faire cela? Dans une certaine mesure, mes choix à moi sont dictés par ce que les autres pensent de moi et à un moment donné, ça m'empêche de saisir l'opportunité. Par exemple, d'aller à l'international. Mmh. On voit dans quelle mesure que le choix dicté par les stéréotypes peut vous empêcher à saisir les opportunités. Donc, je pense que les deux marchent de pair.
Pour vous, quelles sont les stratégies efficaces pour lutter contre ces stéréotypes dont vous parlez et enfin de promouvoir des attitudes égalitaires?
Alors, moi, je pense que la stratégie, elle est triangulaire pour moi. Hein. Je la résume sous trois formes. Mmh. Il y a d'une part différentes approches que l'on doit prendre. Il y a l'approche fondée ou centrée au niveau de la société. Donc, quand je parle de l'approche fondée au niveau de la société, je vois les cadres normatifs. Il faudrait quand même qu'il y ait de lois qui promeuvent l'égalité de sexe, qui protègent les femmes et tout ce qui va avec au niveau de la société pour pouvoir peut-être en dissuader les uns et les autres qui aimeraient bien mettre de la bavure, des abus ou des harcèlements et tout. Et aussi, il y a une autre approche qui est basée au niveau de la communauté. Je suis très amoureuse de zones rurales. Hein. L'une des raisons, je suis venue à la FAO parce qu'on côtoie tous les jours les zones rurales. Et vous vous imaginez qu'au niveau des zones rurales, ils ne savent même pas qu'il y a un cadre normatif ou des textes qui protègent les femmes. C'est là où je parle de mesures d'applicabilité, mais aussi qui est couplé à la vulgarisation. Mais non seulement ça fait que ceux qui sont vraiment dans les zones rurales aussi, hein, on n'exclut pas les zones urbaines, c'est qu'elles sont dans une forme de bulle où on leur fait comprendre que voilà les dictats des us et coutumes, des croyances qui dictent vos choix. Donc à un certain moment, il faudrait que nous puissions travailler sur les aspirations, mais aussi de comment est-ce qu'on nous voit. Mais pas seulement au niveau rural, mais même au niveau urbain. J'ai grandi, my God. Je suis venue à la FAO, mes collègues peuvent le témoigner, j'avais 24 ans. Et mes 24 ans, il y a le toc-toc de la trentaine qui frappe et qui dit, bah Marie, tu auras 30 ans, mais quand tu passes aux couleurs, bah, tu t'es mariée quand? Est-ce que tu fais des enfants quand? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a l'horloge? À un moment donné, ça travaille sur la personne. Ça change même la manière dont la personne a préparé les choses pour elle, même ses choix dans une certaine mesure. Donc, je pense que l'approche fondée sur la communauté, elle est importante. Il faudrait qu'on travaille sur la manière dont les gens voient, les croyances, les attitudes. Ça, c'est très, très important. Alors, la toute dernière approche, je pense que c'est l'approche la plus importante pour moi. C'est l'approche fondée sur la personne. Ça veut dire la personne qui subit, par exemple, les injustices, la personne qui subit les formes des inégalités. Ça veut dire qu'il faut travailler sur cette personne-là. Il faut faire comprendre à cette personne-là qu'elle a sa place sur cette terre. Il faut faire comprendre à la personne que tu as des valeurs, tu as une place de choix, tu as un rôle à jouer, tu as beaucoup de choses à donner. Dans cette édition, on remplit la personne de autant de bonnes croyances, autant de bonnes attitudes. On lui fait comprendre qu'il a une place. Je pense que cette personne peut aller au-delà des stéréotypes, aller au-delà de ce qu'on lui a toujours appris et se découvrir finalement.
Parlons un peu de la FAO. Comment ça se passe là-bas et puis quelles sont les activités que la FAO prévoit par rapport au 8 mars?
La très grande et la très très bonne FAO. Je pense qu'on est là, on est un peu les gardiens de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ouais. Combattre la faim, parce que je pense que si tu as faim, Jeff, tu ne pourras pas être là en face de moi en train de parler. Ouais. Hein. Donc c'est parce que tu as bien mangé, tu as l'énergie qu'il faut, tu es arrivé ici. Je pense qu'on fait du très très bon travail là-dessus. Et pour ce qui est de la FAO, nous avons prévu toute une série d'activités pour le mois de mars. On profite également pour le mois de mars de pouvoir faire de petites formations, petits renforcements des capacités auprès des collègues pour toujours rappeler la très très bonne politique que nous avons de l'égalité des sexes au niveau de la maison, donc au niveau de la FAO, mais aussi nous mettons aussi en lumière toutes les femmes qui font du très très bon boulot. Hein. Chez nous, c'est pas seulement les femmes qu'on voit à l'extérieur, ouais, mais ces femmes qui acceptent d'aller dans des zones à risque parce qu'ils doivent quand même changer des vies autour d'elles. Donc je pense que ces femmes-là, on les met en lumière chez nous. C'est parmi les activités que nous allons organiser. Mmh. Et nous allons aussi, vu le contexte actuel bien sûr, hein, nous allons également organiser une table ronde sur l'impact de conflits armés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes, donc de manière générale, mais spécifiquement les femmes enceintes et celles qui allaitent. C'est un peu les activités que nous allons organiser au sein de la FAO en fait, au mois de mars, mais j'allais oublier, vu que nous accompagnons la partie gouvernementale, nous allons également accompagner le ministère en charge du genre à travers Madame Léonie Candolo, mmh, à mettre en œuvre quelques activités, notamment le forum, qui pour moi, je pense que Madame Léonie a compris qu'aujourd'hui, il suffit juste pas de pouvoir faire le porte-à-pagne, prier par-ci, par-là, mais il est important de s'asseoir et de réfléchir sur comment est-ce que les femmes peuvent contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Ce que je veux dire aux hommes, c'est que les femmes, c'est comme une bénédiction double. Il faudrait en avoir, il faudrait protéger, il faudrait envoyer à l'école, il faudrait valoriser. Faudrait bien éduquer.
Marie Moussifou Bougain, spécialiste nationale en charge du genre à la FAO. Radio Okapi vous dit merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci beaucoup à la Radio Okapi.
À Kalemie, l'Organisation mondiale pour les migrations, OIM, a remis officiellement le mardi 4 mars à la police nationale congolaise des infrastructures modernes. Il s'agit d'un commissariat de référence, de 4 sous-commissariats et de quelques jeeps, Land Cruiser, des motos et de matériel de bureau. Cela a eu lieu à l'occasion de la clôture d'une formation sur la police de proximité. Des précisions avec Paula Munanga.
Ces projets visent l'amélioration des conditions de travail de la police, la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive après le départ de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. Ils sont financés conjointement par les gouvernements du Japon à travers l'Agence de coopération internationale et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Concernant les 4 sous-commissariats de la police, ils ont été construits dans la ville de Kalemie, dans les territoires de Kalemie, Nyunzu et Kongolo. Dans le cadre de la professionnalisation de la police de proximité, 120 élèves viennent d'achever une formation de 6 mois. Ils ont suivi des cours sur des matières liées aux droits humains visant à rendre la police nationale plus professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. Pour rappel, cette promotion de la police de proximité est la toute première dans la province du Tanganyika. La société civile et les membres du comité local de sécurité plaident pour la continuité de la formation de la police afin d'améliorer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Tanganyika.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Deux dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 10 mars, c'est la journée internationale des femmes juges. Et le 15 mars, la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur www.radiocapi.net. Au micro, Babel Pongomassimango, Def suite à la technique et Jeff Opil à la production, coordination et réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Retrouvons-nous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Excellente suite des programmes sur Radio Capi.